Un matin, alors que j'étais dans l'avion pour me rendre à Londres, me voici assis à côté d'une femme d'affaires qui était plongée dans son journal le Wall Street Journal. Et je me suis aventuré dans une conversation avec elle, moi, grand évangéliste devant l'Éternel. Vous savez que si vous êtes un évangéliste et que vous n'avez pas une histoire de conversion de quelqu'un dans un avion qui était sceptique le moment où on a décollé, qui a donné sa vie à Christ le moment où on a atterri, vous n'êtes pas un évangéliste. Je me suis dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion de briller, mon pote. Et alors qu'elle était plongée dans son journal, je la regarde et je lui dis, vous allez à Londres parce que vous rentrez à la maison ou vous partez en voyage d'affaires? Et elle se retourne et me dit, j'habite à Nice et je vais à Londres parce que j'ai un rendez-vous d'affaires. Je dis, ah, vous êtes dans quel business? Elle me dit, je suis évangéliste. Incroyable. Je dis, vous êtes quoi? Elle me dit, oui, je suis évangéliste. Mais c'est incroyable, ça. Pour qui? Pour IBM. IBM, en français. Hein? Évangéliste pour IBM, ça fait quoi ça, une évangéliste pour IBM? Eh ben, ça raconte la bonne nouvelle de l'intelligence artificielle. Et alors elle me raconte en fait qu'elle pilote un laboratoire d'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Elle a sous sa responsabilité 300 ingénieurs qui bossent sur l'intelligence artificielle. Et elle se rend à Londres pour signer un partenariat à plusieurs millions de dollars. Ouf! Elle se retourne vers moi et puis elle me dit, et vous êtes dans quelle entreprise? Ah, je dis, moi je travaille pour une ONG, vous savez, on est présent dans tous les pays du monde. Ah bon, c'est intéressant, et vous faites quoi? Tout, ça va de, on s'occupe des pauvres, on encourage les gens, on fait de l'hospitalier, on fait du microcrédit. C'est génial, c'est quoi comme ONG? Je dis, ça s'appelle l'Église. Pouf. Gros silence. Elle reprend son journal. Pouf. Et jusqu'à Londres, elle ne m'a pas adressé la parole. Pas facile. Pas facile de partager sa foi, même quand on est évangéliste, à des gens qui juste ont décidé que la foi chrétienne, c'était has-been. Welcome dans le monde séculier du 21e siècle, et vous reconnaissez peut-être là vos collègues de travail, vos amis au lycée, au collège, vos voisins, peut-être certains membres de vos familles, qui ont déjà décrété que vous étiez fous. Fous de Jésus, certes, mais fous quand même. Jean-Louis Schlegel, qui a dirigé pendant longtemps la revue Esprit, dit: jusqu'à nos jours, la conversion religieuse n'a pas bonne réputation du côté de la communauté qui a été quittée, mais bien sûr aussi au-delà d'elle, notamment quand le converti est devenu un témoin véhément, voire un intégriste de sa nouvelle cause. Dire de quelqu'un « c'est un converti », c'est rarement un éloge, c'est plutôt l'explication lapidaire d'un excès dans l'engagement nouveau, d'une sorte de violence. Fin de citation. Alors comment témoigner ? Dans un monde qui nous regarde avec beaucoup de suspicion, voire même de condescendance. Comment percer ce mystère? Ce matin, j'aimerais qu'on apprenne d'un personnage biblique qui me fascine. Il s'appelle Philippe. Et je pense qu'il peut nous aider. On va regarder une conversation que Philippe a avec un Nathanaël qu'il connaît. Et pour moi, c'est un échange qui est un petit peu surréel, mais qui nous permet de développer des clés pour notre évangélisation dans un monde qui est sécularisé. Et je vais vous en faire la démonstration en deux temps, et vous trouvez l'épisode dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, au verset 43 jusqu'au verset 51. Jean chapitre 1, verset 43, et je vais lire dans un premier temps jusqu'au verset 46, et on regardera le reste de l'histoire dans un deuxième temps. Voilà, si vous avez une copie des Écritures avec vous, vous pouvez suivre dans le texte. Je lis dans la Louis II, 1910. Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il y rencontra Philippe. Ça, c'est notre personnage. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël, deuxième personnage clé dans l'histoire. Il lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Ben, viens voir. » Ici s'arrête la lecture du passage et on regardera la suite dans un deuxième temps. J'aime beaucoup l'histoire de Nathanaël et de Philippe. Pour moi, Nathanaël, c'est un gars qui est né juste 2000 ans trop tôt. S'il était né au 21e siècle, il serait pleinement dans le décor du monde sécularisé dans lequel on habite. Et je pense que, au travers de sa réaction, on peut voir en lui les trois traits de ce que j'appelle l'homme séculier, ou l'évangéliste de IBM qui était assis à côté de moi. Regardez plutôt dans le texte. L'histoire de Nathanaël commence alors qu'il est assis sous un figuier à regarder le monde. Ça, on le lit dans le texte qui vient. On sait que lorsque Philippe est allé voir Nathanaël, en fait, Nathanaël passait son temps sous un figuier et puis on ne sait pas trop ce qu'il faisait là, mais le texte nous dit qu'il était sous son figuier, il était assis au bord du lac de Galilée et il méditait. Et c'est à ce moment-là que Philippe va le réveiller dans sa méditation en lui disant « Viens voir, viens voir, viens voir ». On ne sait pas de quoi Nathanaël réfléchissait tout seul, là, sous son figuier. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il était tout seul. Il était tout seul et peut-être qu'il se posait les questions existentielles que vous vous posez ce matin, genre d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, quel est le sens de la vie, ou est-ce que j'ai bien éteint mon four ce matin, ou quand est-ce qu'il aura fini de prêcher pour que je puisse rentrer à la maison. Vous voyez, des questions existentielles, quoi. On ne sait pas de quoi il parle, on ne sait pas comment se passe ce dialogue intérieur. La seule chose qu'on sait, c'est que Nathanaël, il est là, tout seul, et il réfléchit au monde et sa place dans le monde. Et ça, c'est la première caractéristique de l'homme séculier, c'est qu'il aime bien réfléchir aux choses de la vie, et souvent, il aime bien réfléchir à ces choses-là seul. Se faire une opinion personnelle des choses. La particularité, en fait, de l'homme moderne, dans son individualisme, c'est qu'il part du principe, écoutez-moi bien, que ce qu'il voit est vrai et réel, et ce qu'il ne voit pas n'est pas vrai, n'est pas réel. Ça va ? Autrement dit, je ne définis pas ce qui est vrai par rapport à ce que je pourrais en savoir, non. Est vrai ce que je vois, et ce que je ne vois pas n'existe pas. Ça même, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le premier trait de l'homme moderne. Si je le vois, c'est là. J'y crois. Si je ne peux pas le voir, ça n'existe pas. Ça, c'est la particularité de l'homme moderne qui a finalement appris à vivre seul et à se faire sa propre opinion des choses. C'était d'ailleurs très intéressant que dans l'épisode sur le vaccin, et on ne va pas rentrer dans le débat, chacun avait une opinion, et surtout une opinion. Et qu'on s'est rendu compte que, quand bien même on pouvait avancer certains arguments, ben on trouvait d'autres arguments de l'autre côté, mais ce qui, moi, m'a fasciné dans cette crise du Covid, c'est que, en tout cas en France, je ne sais pas en Suisse, on a 66 millions de Français et on avait 66 millions d'experts. 66 millions d'experts. 66 millions de personnes qui pouvaient vous expliquer pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec ceux qui étaient assis à côté d'eux, juste parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que eux voyaient. C'est quand même assez extraordinaire. C'est la première marque de l'homme moderne. Si je le vois, c'est là. Si je ne le vois pas, cela n'existe pas. l'individualisme. L'histoire continue dans le texte, au verset 45. Et Philippe, alors que Nathanaël est là, sous son arbre, à se demander si il va se faire vacciner ou pas, Philippe l'interrompt. Et Philippe est quelque part un peu excité. Pourquoi est-ce qu'il est excité? Ben parce qu'il a trouvé Jésus, quoi. Non, vous n'êtes pas très excité, vous n'êtes pas trop Philippe, hein, ce matin, vous êtes plutôt Nathanaël, hein, bien assis dans les sièges. Philippe, en fait, il a découvert Jésus, quoi. Donc, il a découvert Jésus, et Jésus, c'est qui? C'est celui qui a été annoncé par le prophète Moïse il y a 1500 ans. Quand Moïse est arrivé, il a dit « Un jour, il viendra un prophète plus grand que moi et vous l'écouterez. » Pour ceux qui connaissent le texte biblique, vous savez que et Nathanaël et Philippe sont juifs. Et en ce sens-là, ils sont des disciples de Moïse. Et ça fait depuis 1500 ans que les juifs attendent l'arrivée de ce prophète que Moïse avait annoncé, un plus grand que moi viendra et vous l'écouterez. Et Philippe vient voir Nathanaël en lui disant, c'est bon, il est là, on l'a trouvé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, ah bon? Nazareth? Tu rigoles ou quoi, là? Enfin, Jésus de Jérusalem, ouais, bon, ok, mais Nazareth? Je veux dire, il faut pas rigoler, quoi, c'est comme si tu me disais que Jésus, il venait de Divonne-les-Bains. C'est où, Divonne-les-Bains? Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas trop où c'est, quoi. Si, c'est entre Genève et Lausanne, quoi, c'est très joli, Divonne-les-Bains. Mais franchement, celui que Moïse avait annoncé, que ça fait 1500 ans qu'il vient, il vient de Divonne-les-Bains. Faut quand même pas rigoler, quoi. Vous voyez, Philippe est excité, et Nathanaël, lui, il a déjà décidé que c'est pas possible. Ça, c'est le deuxième trait de l'homme moderne, de l'homme séculier, c'est le cynisme. Il sait que c'est pas vrai. Il sait que c'est pas possible. C'est pas possible. Si le Messie doit venir, forcément, il vient de Genève. La capitale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà qu'il vienne de Nazareth, Nazareth, c'était une bourgade, il y avait même pas 400 habitants dedans. Je veux dire, c'est la loose, quoi. Et donc, Nathanaël a déjà, quand il entend que Jésus vient de Nazareth, il a déjà décidé tout ça, c'est même pas plausible. Et en fait, il est un peu amusé que Philippe trouve ça absolument extraordinaire, tu vois. Je vois Philippe, je vois que bon, Philippe c'est un pote, hein, il s'excite un peu avec n'importe quoi, hein. Il est un peu foufou, quoi. Bon, c'est mon rôle de le calmer. Franchement, Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Faut quand même pas rigoler, hein. Philippe. Sors de ce corps. La différence entre un sceptique et un cynique, c'est qu'un sceptique, il sait pas si c'est vrai. Il faut des preuves. Un cynique, il sait que c'est pas vrai. Il a même pas besoin d'étudier la chose. C'est pas possible. Ça, c'est le deuxième trait de l'homme séculier. C'est intéressant, cette propension, ce cynisme. Dietrich Bonhoeffer, et à plusieurs endroits, je l'ai déjà cité, il dira que c'est finalement la quintessence de l'homme pécheur. C'est celui qui juge l'autre, parce que franchement, tout le monde sait que si le Messie doit arriver, il viendra pas de Nazareth. Et oui. Et donc, Nathanaël juge Philippe. Et en ce sens-là, il montre qu'il est vraiment pécheur. Le cynique sait que c'est faux, sans même devoir faire l'effort d'étudier la chose. C'est une posture. C'est le deuxième trait de l'homme moderne. L'histoire continue. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe, aurait pu choisir à ce moment-là le choix de l'offense, en me disant, bon, ok, je suis allé voir Nathanaël, il m'a bien sabré, moi je viens avec une bonne nouvelle et il me plante, quoi. Bon, ben, si c'est comme ça, bye. Et Philippe ne fait pas ce choix. Philippe dépasse l'offense parce qu'il est habité d'une certitude. Cette certitude, c'est que l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Ce Nathanaël qui lui est cher, qui était tout seul sous son figuier, en train d'imaginer ce qu'il peut voir et ce qu'il peut pas voir, qui avait déjà déterminé ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai, il pourrait peut-être y avoir quand même un espoir pour lui. Et donc, plutôt que de choisir l'offense, il la dépasse et il se dit, ben, va voir, toi qui sais tout. Hein? Toi qui sais tout. Le gros malin. Viens voir. Viens voir. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Le pari de Pascal avant de Pascal. Et le truc le plus extraordinaire, c'est que Nathanaël se lève et le suit. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la façon la plus facile de se débarrasser de Philippe. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont très très motivés, ben, vous allez dire, bon, ben, je vais voir, et puis de toute façon, je vais lui montrer que c'est faux, puis après, on passera à autre chose, quoi. Peut-être que c'était ça, son choix. Ou peut-être qu'il a été séduit par Philippe, un peu sa naïveté, en se disant, bon, allez, c'est un copain, je ne vais pas le laisser tomber. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Philippe se lève avec Nathanaël et les deux, ensemble, vont voir Jésus. J'aime ça parce que c'est un des troisièmes traits de l'homme moderne, ce que j'appelle le pragmatisme. L'homme moderne, c'est pas quelqu'un qui est forcément intéressé à étudier la chose, mais quand on lui propose de l'expérimenter pour lui-même, ça l'intéresse, ça le chatouille. Il y a une très belle parole de Leslie Newbegin à ce sujet-là. Il dit, le scepticisme, ou alors dans notre cas, on pourrait dire le cynisme, ce n'est pas le principe actif qui fait avancer la connaissance. Le principe actif, dit-il, c'est l'empressement à aller au-delà de ce qui est certain, à écouter ce qui n'est pas encore distinct, à rechercher ce qui est à peine visible, à hasarder une affirmation qui sera peut-être démontrée fausse, mais qui sera peut-être aussi le point de départ de nouvelles conquêtes de l'esprit. Dans le langage traditionnel du christianisme, ce principe actif s'appelle la foi. À un moment donné, il va falloir expérimenter la chose, la mettre en pratique. Et peut-être qu'en expérimentant, on verra si c'est du lard ou du cochon. Nathanaël, l'individualiste, le cynique, mais aussi le pragmatique, se met en route. Peut-être parce que, au fond de lui, il n'est pas satisfait. Il ne veut pas l'admettre. Mais peut-être qu'au fond de lui, il y a un vide, comme dit Pascal, comme dit saint Augustin, qui a la forme de Dieu. J'aime beaucoup cette citation d'Abdennour Bidar qui dit « Dans un monde sécularisé, nous étouffons de plus en plus parce que cantonnés dans des univers clos, réduits à leur dimension matérialiste dans lesquels les relations entre les êtres humains sont marquées par un déficit incroyable d'humanité, nous avons fermé la porte à tous les grands horizons d'espérance métaphysique. » Et peut-être que quelque part, chez Nathanaël, celui qui est l'individualiste, le cynique et le pragmatique, peut-être qu'au fond de lui, il se dit « Et s'il y avait plus ?» Et s'il y avait plus ? Qui saura le rencontrer sur son chemin ? Qui saura dépasser son individualisme, son cynisme, son pragmatisme ? Qui saura toucher le cœur pétri par le modernisme et ses faux espoirs ? Et là, les amis, Jésus entre en scène. Troisième personnage dans l'histoire. Et l'histoire continue, et c'est à ce moment-là qu'on prend la lecture au verset 47 jusqu'au verset 51. Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Donc imaginez, Philippe a réussi à convaincre son pote Nathanaël de venir le voir. Et là, tous les deux, ils sont en chemin et Jésus les voit. Et voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui dit, « Ah, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Première découverte. Nathanaël, lui, ne voyait pas Jésus. Mais lui, Jésus, il l'a vu. Avant que Nathanaël le voie, Jésus le voit déjà. C'est quand même compliqué pour quelqu'un qui pense qu'il est seul de se dire qu'en fait il a déjà été accompagné depuis le début. Deuxième découverte que fait Nathanaël. Lui qui ne connaissait pas Jésus. Et pourtant, Jésus lui dit, mais je te connais. Je te connais. Tu t'appelles Nathanaël. Tu sais ce que ça veut dire ton prénom ? Ça veut dire cadeau de Dieu. On fait quoi avec ça ? Est-ce que tu es un cadeau de Dieu ? Est-ce que tu es un cadeau pour Dieu, Nathanaël ? Nathanaël, qui es-tu ? Est-ce que tu sais même qui tu es ? Moi, je te vois et je te connais. Je connais ton prénom, je connais ce que ça signifie, je connais toute ta vie. Je te vois là, seul, sous ton figuier, à imaginer que, en fait, la réalité se borne simplement à ce que tu vois. Je te vois dans ton cynisme, à te dire, ah, pauvre Philippe, encore un fou, un évangéliste. Et moi, je te connais, Nathanaël. Je te connais et je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Mais par contre, le péché en toi, ça c'est un souci. Il va falloir qu'on s'en occupe. Extraordinaire de pouvoir se tenir devant Dieu avec tous nos défauts et de l'entendre dire « Voilà un homme en qui il n'y a point de fraude. » Franchement, c'est comme ça que vous, vous auriez réagi en tant que fils de Dieu. Moi, j'aurais un petit peu joué avec lui. Hein. J'aurais vu Nathanaël se pointer et dire « Ah, l'homme moderne. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, tu veux jouer ?» Non, Jésus l'accueille. Ah, je suis content que Jésus ne soit pas comme moi. Hein. Troisième découverte. Nathanaël vient voir ce Jésus de Divonne-les-Bains sans s'attendre à grande chose, mais comme il est un peu pragmatique, il se lève. Et Jésus, lui, il l'appelle à vivre de plus grandes choses. Toi qui as envie de voir, moi je te dis, tu es venu voir quoi ? Moi je t'invite à de grandes choses. Moi, toi, ton espérance et ton horizon, il est à peu près épais comme ça. Moi je t'invite à voir le Fils de Dieu dans sa gloire. Les hommes, les anges, et tout son royaume, dans toute sa dynamique. Nathanaël, je te vois, je te connais, je connais ton nom, et je t'appelle à de plus grandes choses. Ce que tu espères de la vie, c'est trop petit. Et tes rêves et tes passions sont trop petites. Nathanaël, je t'invite à rentrer dans ma dimension à moi. Autrement dit, à l'individualiste qui dit « si je ne le vois pas, ça n'existe pas », Jésus lui dit « je te vois ». Au cynique qui dit « je connais toutes choses et je sais que c'est faux », Jésus lui dit « je te connais déjà ». Et au pragmatique qui dit « fais voir moi ton truc à deux balles », Jésus lui dit « moi je t'appelle à passer à la prochaine étape et à vivre de plus grandes choses ». Vous voyez comme Jésus aime l'homme moderne. Amen. Philippe le savait, et c'est peut-être pour ça qu'il était empreint d'une passion de le faire connaître. Philippe savait que s'il y en avait un qui pouvait parler au cœur de Nathanaël, c'était bien Jésus de Nazareth. Et qui pouvait dépasser tout ça, son individualisme, son cynisme, son pragmatisme, pour aller toucher son cœur et lui dire « je te vois, je te connais et je t'appelle ». Philippe nous montre le chemin vers une évangélisation qui est décomplexée parce que Jésus voit, il connaît et il appelle encore aujourd'hui. Même ceux qui sont évangélistes chez IBM et qui ont leur nez planqué dans leur magazine. Et ça, ça me rassure. Ça me rassure. Vous avez bien remarqué que Nathanaël était juif. C'était quelqu'un qui devait sûrement aller à la synagogue. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de passer complètement à côté de Jésus. Autrement dit, on peut penser être chrétien, aller tous les dimanches à l'église et complètement passer à côté de Jésus. Ou pour le dire autrement, l'homme moderne, il est souvent assis sur les bancs de l'église le dimanche matin. Et il y a un petit peu de cet homme moderne en toi et en moi. Et ça, Jésus aussi va en parler ce matin. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'était moi. Nathanaël, c'était moi. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et pourtant, je suis passé complètement à côté de Jésus. Et pourtant, lui qui voit et qui sait et qui appelle, il ne me l'a pas laissé tomber. Ça s'est passé en trois temps. La première fois, j'étais animateur, j'avais 17 ans, dans une colonie de vacances pour la Ligue pour la lecture de la Bible. Et comme mon grand-père était trésorier de la Ligue pour la lecture de la Bible, ils m'ont pris comme animateur. En disant, bon, c'est le petit-fils du trésorier, on ne peut pas faire autrement. J'avais 17 ans, j'étais au lycée. Je crois que des choses comme « je te demande pardon », ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J'étais quelqu'un très imbu de moi-même. Je pensais que les gens ne comprenaient rien à la vie. Mais que finalement, Dieu était très content que je sois né pour rectifier les choses, on va le dire comme ça. Et là, il y avait une petite fille de 13 ans qui, un jour, vient me voir en me disant « Raphaël, j'ai envie de te parler, j'ai besoin de te dire quelque chose, un secret. » Moi, j'étais très, très, très embêté, vous comprenez, j'avais 17 ans, j'étais beau gosse, et je me suis dit « la gamine, qu'est-ce qu'elle va me dire ?» « Moi, j'ai le béguin pour toi, t'es un beau gosse, et puis t'es rigolo, et puis tu sais beaucoup de choses sur la vie, et puis moi je vais être embêté, et puis je vais dire « mais tu comprends pas, j'ai déjà une copine, bon, relou, quoi. » Et puis comme elle insistait, après le repas de midi, on s'est mis là sous un arbre, tout seul. C'était au Rimli-Sauf, un très grand chêne, et on s'est mis à l'ombre de ce chêne, et puis j'ai dit « bon, allez, vas-y, t'as quoi à me dire ?» Et puis plus vite c'est fait, plus vite on passe à autre chose. Et là, elle commence à me raconter son histoire. L'histoire, en fait, d'une jeune fille qui a fait un nombre incalculable de foyers et de familles d'accueil dans sa vie. Qui a été bazardée d'une maison à l'autre, abandonnée par ses parents, est victime d'abus sexuels à multiples répétitions. Et alors qu'elle me racontait son histoire, moi qui étais là, seul avec elle sous l'arbre, mon cœur s'est fendu en deux. Et je me suis dit, mais comment tu peux mettre autant de souffrance dans 13 ans? Vous voyez, moi, dans ma vie, je l'ai eu belle. Porter faire du ski avec mes parents pendant les vacances. On partait à la mer en été. J'ai pas connu ça, moi. J'avais pas de place pour ça dans ma vision du monde. Vous comprenez? Moi, dans mes certitudes, du fin fond de ma chambre de 17 ans, j'avais rien pour comprendre et appréhender la souffrance du monde. Et là, cette jeune de 13 ans, qui peut-être pour la première fois raconte son histoire à quelqu'un qu'elle pense être digne de confiance. Et moi, fourbe, au plus profond de moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et alors que j'étais complètement désespéré en me disant « mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et je sais même pas quoi dire. Je sais même plus quoi dire. » Je sentais Jésus me regarder dedans en me disant « ça va aller, je te vois. Je te vois. Je te vois et je la vois. » Et je la vois depuis 13 ans. Et j'ai tout vu, moi aussi. J'ai tout vu, moi aussi. Simplement, dis-lui que je l'ai vu et que j'ai vu ce qui s'est passé. Dis-lui. Et moi, je dis ça comment ? Elle me dit, ça s'appelle la prière. Donc, tu vas prier avec elle. Je dis, ben oui, vous êtes que tous les deux, là. Donc, va falloir s'y mettre, hein, mon bonhomme. Hein ? Au travail. Bon, et j'ai regardé, j'ai dit, bah, écoute, je crois qu'on va prier, hein, parce que là, moi, je ne sais plus quoi dire. Et tout simplement, j'ai fait cette prière, j'ai dit, je crois que Jésus te dit qu'il l'a vu. Et c'était comme s'il y avait des barrages d'eau vive qui... Il dit, Jésus a vu ta souffrance, il était là, il a vu ce qui s'est passé. Et ce matin, tu viens vers moi en me disant, sois témoin de ma souffrance, et je te dis, il y en a un qui l'a vu depuis tout le temps. Et il est là, il te voit, il est là avec toi. Ça, c'était la première fois. Dans mon individualisme, j'avais développé une vision du monde où, pour moi, la souffrance n'avait pas de place. Et je ne savais pas qu'on pouvait paquer autant de souffrance dans 13 années de vie. Et Jésus me fait la grâce en me disant, je te vois. Et je la vois aussi. La deuxième fois, j'étais cette fois-ci animateur. Mais cette fois-ci pour Jeunesse Ardente. Et j'étais au Prat de Lille, c'est juste à côté. J'avais 22 ans. Et l'orateur, c'était un médecin, Ricardo, et il faisait une série sur les 10 commandements. Alors, 22 ans, une série sur les 10 commandements. C'est pas le genre de série qui vous excite, quoi. J'ai dit, bon, les 10 commandements pour des jeunes ados, Ricardo... Ça sent un peu le Nazareth. Hein. C'est un peu d'Yvonne Les Bains, ton truc. Hein. Mais après, c'est toi l'orateur. Hein. C'est toi qui sais. Hein. Oh Seigneur Jésus. On est arrivé jeudi. Et jeudi, c'était le commandement. Le jour du Seigneur, tu respecteras. C'est simple. Hein. L'idée de principe, c'est que... Tu travailles 6 jours, et le 7e, tu te reposes. Et c'est un commandement. C'est un truc de fou, hein. Imaginez, vous adorez un Dieu qui dit « repose-toi ». Je ne sais pas où c'est que ça existe, hein. Mais je crois que c'est assez unique au Dieu de la Bible. Hein. Tu travailles 6 jours, et le 7e, tu te reposes. Et le principe là derrière, du sabbat, c'est simple, hein. C'est parce que le 7e jour, c'est la récréation ou la recréation. C'est-à-dire que Dieu te recrée le 7e jour à nouveau pour que tu puisses créer les 6 prochains jours à partir de la recréation que Dieu opère dans ta vie le 7e jour. Tu comprends ? C'est-à-dire lundi, tu retournes au travail parce que tu as été recréé et tu peux créer de la création de Dieu. C'est ça le principe. Et dit l'Éternel a créé le monde en 6 jours et le 7e il se reposa. Et si Dieu peut se reposer, je pense que tu peux aussi le faire. Ça, c'était grosso modo le message du jour. Et à ce moment-là, je peux vous dire que mon cerveau, il a fait un 180 degrés. J'avais le cerveau retourné. J'avais 22 ans et je venais de signer un contrat avec les dernières nouvelles d'Alsace. Grand quotidien de la région Est. Et ma mission était la suivante, vous allez bien rigoler, hein. Il fallait que j'augmente les ventes du quotidien le dimanche. On avait signé un contrat à plusieurs milliers d'euros. J'étais encore étudiant à la fac, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais on était très content d'avoir signé ce contrat. Et j'avais des équipes de vente. Et on avait formé les équipes de vente à la crier, vous savez, comme dans l'ancien temps. Donc on se retrouvait dans la gare le dimanche matin. « Dernière nouvelle Alsace !» Club sportif La Servette a encore mis une pilée à l'AC Milan, vous voyez, des choses comme ça. Donc on trouvait notre trame et puis on vendait les journaux. Et j'avais mes équipes de vente et on taffait du dimanche matin de 8h jusqu'à 14h. Après, on part du principe qu'à 14h, les gens ne lisent plus le journal. Le problème, c'est que je ne pouvais plus aller à l'église. Mais j'avais une bonne raison, quoi. Ben, oui, parce qu'il fallait quand même que je me fasse un petit peu de sous, j'étais étudiant, vous comprenez. Hein. Puis après, business, c'est business. Hein. On ne mélange pas les choses. Hein. La difficulté, c'est que ça faisait 6 mois qu'on était sur le projet et que les ventes, elles ne décollaient pas. Et à chaque fois, le lundi matin, j'allais voir le directeur marketing des Nouvelles d'Alsace dans son grand bureau. Il regardait les chiffres en disant « Monsieur Hansenberger, on ne comprend pas, ça devrait marcher ce truc. On a mis des milliers d'euros dans la formation, vos équipes sont bonnes, vous êtes un gars brillant. Forcément, ça devrait décoller. On ne comprend pas cette histoire. » Et au moment où l'autre, il me parle du commandement, mon cerveau, il fait 180. Et je réalise à ce moment-là que l'Éternel ne peut pas et ne veut pas et ne bénira pas mon projet. Point. Vous savez, moi, j'étais spécialiste en marketing, quoi. Mais j'ai jamais lu dans un bouquin de marketing un truc en disant, by the way, le 7e jour, tu respecteras. Si j'ai pas lu. Pour moi, c'est business is business. Et là, je me dis, tu as un choix. Ou bien tu fais le cynique en disant, ouais, non, mais c'est bon. Ouais, ça, c'est l'Ancien Testament, les choses ont été abrogées. T'as qu'à lire l'Épître aux Hébreux. D'accord ? Sauf que, sur les 10 commandements, c'est le seul commandement qui a été donné avant Moïse. C'est un commandement qui date de la création. Donc ça même, ça prédate le péché. Gros problème théologique, là. Et là, je me dis, t'as deux choix. Ou tu continues à faire le cynique en disant, bon, ok, je sais que Dieu me voit, mais moi, je sais. Lui, il sait pas. Ou tu pars du principe que tu sais rien et que t'as tout à apprendre. En commençant par cette règle de base. Ça s'appelle les 10 commandements. Exactement. Ça fait ding-ding dans mon cerveau. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est un truc de fou. Et là, j'étais convaincu. Dieu m'a convaincu. La semaine d'après, je prends rendez-vous avec mon collègue avec qui on avait monté la boîte. Et je lui dis, Seb, il faut que je te parle. Elle me dit, oui. Écoute, voilà, je t'explique. Bon, tu sais que sur le projet des dernières nouvelles d'Alsace, ça décolle pas. Elle me dit, ouais, je comprends pas, ça devrait décoller. Je dis, oui. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Il me dit, ah ouais, ça m'intéresse. Elle me dit, oui, le problème, c'est moi. Je fais, quoi, le problème, c'est toi. Il dit, ben oui, bon, tu sais que je suis chrétien, bon, que je vais plus à l'église, bon, alors je te la fais court. Hein. Il y a un truc, ça s'appelle les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a un truc, tu respectes, je pensais que je connaissais, du marketing, je comprends pas. Donc du coup, le problème, c'est moi. Il me regarde, il me dit, mais t'es fou. Je dis, oui, mais je suis heureux. Il me dit, bon, écoute, je comprends pas. Mais si toi tu penses que tu connais, mais c'est pas moi qui vais aller l'annoncer au directeur marketing. Hein. Je dis ok, je prends ma responsabilité, je forme même une équipe pour prendre le relais, et j'irai le voir. Dans ma tête, je me dis, je suis complètement barré. Comment est-ce que je vais expliquer ce truc-là au directeur marketing, quoi. Je prends rendez-vous avec lui, je toque à la porte, et pour une raison ou pour une autre, son bureau, il était mais très loin. Et ça m'a pris mais des heures à marcher vers son bureau. Mais c'était loin. C'était tellement loin. Il était tout au fond. Et moi, j'étais tout là-bas. Et je marchais, je me disais, mais tu es en train... Tu vas lui expliquer quoi? Et pourtant, j'avais une certitude au fond de moi en disant, dis-le. Parce que maintenant, tu connais, toi qui pensais tout connaître. Alors, je m'assois et je regarde en disant, bon, c'est pas fameux les résultats. Il me dit, oh, je comprends pas, hein, ça devrait marcher. Hein. Je dis, j'ai la solution. Ah, ben, ça m'intéresse. Alors, voilà. J'ai longtemps réfléchi. Et j'avais trouvé une histoire. Je me suis dit, il va peut-être connecter avec ça. J'ai dit, vous souvenez de l'histoire d'un gars qui se fait manger par un poisson, ça s'appelle Jonas. C'est dans la Bible. Il regarde, il fait, ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et j'ai dit, bon, bah, alors juste avant qu'il se fasse manger par le poisson, je dis, vous allez voir, ça a un rapport avec les dernières nouvelles d'Alsace. Hein. Donnez-moi juste 2 minutes, j'élabore. Hein. Bon, alors, juste avant qu'il se fasse manger par le poisson, grosso modo, Dieu lui dit, va là-bas, et puis lui, il va là-bas. Okay? Et parce que lui, en fait, il refuse d'aller là-bas, et qu'il va là-bas, il en fait ça à sa tête, parce qu'il est un peu cynique, eh ben Dieu, justement, il va apporter, mais là, la mouise. Ils sont sur un bateau, ça tangue de partout, le bateau est prêt à couler, tout le monde est en panique générale, un peu comme notre projet. Vous voyez le rapport? Ça tangue de partout, c'est la tempête, ça prend l'eau. Les équipes sont là, les équipes de vente, en se disant, c'est pas normal. Vous commencez à faire un peu le rapport? Et puis là, il y a Jonas qui est dans le bateau, et puis qui dit, c'est de ma faute. Et l'autre, il dit, ah bon? Bah oui, parce que Dieu, il m'a dit d'aller là-bas, et je vais là-bas, et c'est pour ça qu'il y a la tempête. Et vous savez ce qu'ils font? Il dit, vous savez ce qu'ils font? Il dit non. Et ben, ils le jettent par-dessus bord. Et c'est là que, hop, il se fait manger par le poisson. Il dit, vous comprenez? Il me fait, je suis pas sûr. Pas sûr. Alors, le bateau, c'est le projet, ça, jusqu'à là, j'ai suivi. Après, j'ai lâché. Il dit, bah, moi, c'est Jonas. C'est-à-dire que je suis chrétien et que, en fait, Dieu peut pas bénir ça parce que du coup, en fait, j'ai pas les priorités au bon endroit. Et depuis que j'ai pris ce travail, je peux plus aller à l'église. Et donc Dieu me dit, c'est là ou c'est là? Alors moi, je dis, bah, c'est là. Parce que je fais le malin, parce que moi, je connais. Je suis un peu cynique. Alors, bah, il amène la tempête. Et puis, on se voit tous les lundis. On se dit, c'est pas normal. Et puis, moi, je vous dis, bah, maintenant, je sais. Il suffit que vous me balanciez. Et vous allez voir, le projet va décoller. Yeah, gros moment de silence. Ça a duré 3 heures à peu près. Non, ça devait durer 30 secondes, mais vous imaginez le truc. Moi, mon cœur, il battait comme un fou. J'ai dit, mais il est complètement taré. Il prend une grande respiration, il se lève, il me tend la main en me disant, Monsieur Hansenberger, si vos convictions spirituelles passent avant vos objectifs marketing, félicitations. T'as vu ça? En tout cas, Jésus, il voyait, hein. Il était aux premières scènes, hein. Je lui ai serré la pince. Je sais plus ce que j'ai dit. Ça devait avoir aucun sens. J'ai dit, je vous promets, je vais former les équipes, on va se débrouiller, etc. Je suis sorti de là, je flottais. C'est-à-dire que je courais dans la rue, mais je flottais. Une impression de fou, quoi. Tu vois? Un peu comme ce que Jésus dit, quoi. Je t'appelle à des grandes choses, tu vois. Les anges qui descendent et qui montent. Enfin, j'étais avec les anges. C'était absolument irréel. Troisième et dernier temps. Ça se passe toujours quand j'étais animateur. Hein, je ne sais pas pourquoi. Troisième temps, je suis animateur dans un camp. Et on fait un week-end de préparation avec toute l'équipe. À ce moment-là, j'étais résolu dans mon esprit de me dire, bon, bah, maintenant que Dieu te voit, que maintenant tu lui as donné ton cœur, maintenant vas-y à fond! Et je faisais les camps, je faisais machin, le groupe de jeunes, je faisais tout, je faisais plein de trucs. Mon père, quand il voulait me parler, il fallait qu'il prenne rendez-vous avec moi, j'ai été blindé à 6 mois. Je dis, ouais, au mois de juin, je peux te filer 2 heures, mais Ça sera le 18 juin, le 19 juin, je t'appelle, je te dis. On est en janvier, mais c'est très tendu, excuse-moi. Hein. J'étais premier ministre de Jésus, quoi. Impliqué, je faisais des voyages humanitaires, etc. Et puis quand j'avais pas le temps de faire, on organisait des camps de vacances. Et alors qu'on termine ce week-end de préparation, je suis invité par ce père de famille, qui était donc le papa d'un des animateurs, à manger avec le reste de l'équipe avant de reprendre la route. Et c'est la première fois que je mangeais avec une famille nombreuse. Je sais pas combien il avait de gamins, mais il devait être genre 7, 8 frères et sœurs, c'est un truc de fou, quoi. Ils avaient une table, mais un peu comme on a derrière, une grande table. Et il y avait tous les frères et sœurs, plus toute l'équipe d'animation, on devait être au moins 15 autour de la table. C'était magique. Il y avait une ambiance, il y avait une dynamique. Moi, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille où on se faisait la tête. Voilà. Chacun était dans sa chambre, et puis quand on se retrouvait le repas, c'était... Non, même pas. Voilà. Et là, il y avait un espèce d'avant-goût de banquet. C'était assez céleste, comme vraiment, c'était assez céleste. Et il y avait ce père de famille qui siégeait au bout de la table, et son épouse de l'autre côté. Et puis on voyait une vraie intimité entre les deux. C'était vraiment, c'était tout à fait particulier. Et à l'époque, je priais dans mon sens en disant, ben voilà, Seigneur, donne-moi une femme, quoi, qui soit. Tu vois, une première ministre avec qui on partage le portefeuille, quoi. Comme ça, elle peut parler à mon père quand moi je peux pas, quoi. Tu vois, enfin, quoi, business, quoi. Je jure, mais business pour le royaume, hein, on est d'accord. D'accord. Bon. Et il y avait une forme de. C'est comme si le temps était suspendu, vous voyez, autour de cette table. Il y avait de l'amitié, il y avait des choses qui étaient belles que j'expérimentais peut-être pour la première fois. En disant, tu sais, il y a un avant-goût du royaume, là. Et on discute, et on discute, et on discute, et on discute, et le père de famille me regarde en me disant, Raphaël, c'est quoi ton projet dans la vie? Puis je dis, ben, je sais pas, je suis en train de réfléchir, et peut-être que ceci, peut-être que cela, etc. Et puis une fois que j'avais fini mon laïus, je pense que ça l'a pas beaucoup impressionné, peut-être un peu trop pragmatique, il me regarde, il me dit, fiston, est-ce que tu sais ce que veut dire ton prénom? J'ai dit, bah non. Et il m'a parlé comme un père. Et il regarde sa fille, il dit, va chercher le dictionnaire. Elle revient. Raphaël. Dieu a guéri. Et il dit, j'ai juste une question pour toi. De quoi est-ce que Dieu a besoin de te guérir? La bombe atomique. Moi, tu vois, moi, je pensais que j'avais atteint le nirvana, quoi. Genre, être occupé comme un bon évangélique, à courir à droite et à gauche et à monter, à tout ça. Ça, c'était, tu peux pas faire plus. T'es pragmatique. Voilà, t'es bon dans le marketing, tu fais ça, t'es bon dans le. Et je découvre que Jésus m'appelait à plus. En me disant, mais je suis pas intéressé par ce que tu peux faire pour moi, tu peux le comprendre, ça. Ça m'intéresse pas de te voir courir à droite et à gauche. Moi, je veux te guérir. Tu peux le saisir, ça. J'ai dit, mais c'est qui ce Dieu qui s'intéresse à nous? Parce qu'on est nous et juste pas pour ce qu'on peut faire pour lui. C'est l'antinomie de la modernité, vous comprenez? Dans le monde moderne, on vous regarde et on vous pèse. Et on voit ce que vous valez. Quand vous arrivez à la retraite, il y a une grosse crise existentielle. Parce que tout d'un coup, vous ne produisez plus. C'est pour ça qu'on parle d'euthanasie. Et ça me fend le cœur que la Suisse était le premier pays à le proposer. Quand on ne sait plus mourir, on ne sait plus vivre. Et si notre horizon eschatologique, c'est la modernité, c'est simplement ce qu'on peut produire, d'un point de vue purement pragmatique, mais est-ce qu'on saura encore mourir ? Et nous mourrons comme nous avons vécu. Et l'apôtre Paul dira cette phrase absolument extraordinaire à la fin du 13e chapitre de Corinthiens. On regarde les choses comme dans un miroir, mais franchement, on n'y voit pas grand-chose, c'est mystérieux. On connaît peu de choses, mais lui nous connaît. Et c'est seulement avec cette certitude, les amis, qu'on peut avancer. Le fait qu'il nous connaisse et qu'il nous appelle. Et il nous appelle à devenir qui nous sommes. Et pour Nathanaël, c'était de devenir un cadeau de Dieu, de devenir ce que son prénom signifiait. Et ça a été la même chose pour moi. Tout ça pour dire que ce matin, Dieu continue à vous voir, à vous connaître et à vous appeler. La seule question, c'est combien de temps ça prendra pour vous? Pour Nathanaël, ça a pris 8 versets. Pour moi, ça a pris 5 ans. Mais le Seigneur est bon. Demandez à mon ami Franck de venir pour conclure.
Alors, si vous avez applaudi, c'est que vous avez répondu à la troisième colonne. Elle est là. C'est que vous avez répondu à son appel, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle encore. Il nous voit, il nous connaît parfaitement, il sait exactement où nous en sommes, sur notre parcours spirituel. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est le moment où il t'appelle. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais s'il est venu frapper à ta porte ce matin. Peut-être qu'il est là et que tu t'es dit « Waouh, mais il est en train de me parler à moi. » Et tu peux venir à lui, tout simplement. Raphaël, ça a pris 5 ans. Moi, ça a pris 22 ans. Mais à un moment donné, Jésus m'a appelé clairement. Alors peut-être que tu peux faire ce choix. Si Jésus t'appelle ce matin, alors viens à lui. Il dit « Ok, je viens comme je suis, comme Nathanaël. J'ai pas grand-chose à t'offrir, mais je sais que je suis un cadeau. Mais je viens à toi, tel que je suis. »